Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, IKEA France lourdement condamné pour avoir espionné ses salariés. 1 million d'euros d'amende, 2 ans de prison avec sursis pour l'ancien PDG. Nous allons au tribunal de Versailles dans un instant. La vaccination des adolescents, engouement réel en ce premier jour. Nous irons au vaccinodrome du Stade de France. Et puis, bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Les premiers chiffres donnés par le site Doctolib.
Oui, des premiers chiffres qui montrent que ça démarre plutôt très bien. Pour la seule journée d'hier, 62 000 rendez-vous ont été pris pour les 12-17 ans, ça représente le quart du total des rendez-vous saisis sur Doctolib.
Les détails tout à l'heure. Une affiche digne d'une finale pour commencer l'Euro de football Allemagne-France à Munich. Le numéro 6 des Bleus, Paul Pogba, voit déjà loin.
Ça sera un match difficile. Si on fait les choses bien, après, je pense que tout va bien se passer. On a un objectif, c'est d'emporter cet Euro.
Avant le coup d'envoi ce soir, les Bleus mettront un genou à terre, geste symbole de la lutte contre le racisme. Dans l'actualité encore, pollution significative, une fuite d'huile provenant d'un navire sur le chantier des éoliennes en mer à Saint-Brieuc. En Corse, on continue de ramasser des boulettes de pétrole. 3 navires soupçonnés et repérés après le probable dégazage. Quand 3 institutions juives appellent à voter contre les extrêmes, RN, France Insoumise et certains écologistes, le marché immobilier est bel et bien en train de se transformer. Succès de villes moyennes comme Moulins, Pau ou Saintes selon les notaires. Et puis la chaleur jusqu'à demain, 35 degrés cet après-midi à Bordeaux ou Perpignan. À 13h30, vous vivez à la campagne. Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Les déserts médicaux, les zones blanches et toutes vos préoccupations. Notre invité est Joël Giraud, secrétaire d'État à la ruralité. Le vif de l'histoire, avant les élections dimanche, petite histoire de l'isoloir, de l'urne et du bulletin de vote. Et puis c'est Ben, l'oncle Saul, qui sera avec Frédéric Pommier, le temps d'une chanson à 13h45. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le procureur, la procureure, avait appelé à envoyer, pour la protection de nos vies privées, un signal fort aux sociétés commerciales tentées de pratiquer la surveillance de masse. Au procès d'IKEA France, l'entreprise et son ancien PDG sont condamnés à 1 million d'euros d'amende pour la filiale et 2 ans de prison avec sursis pour l'ancien PDG. Le jugement est tombé ce matin, Corinne Audouin.
Oui, bonjour Bruno.
Bonjour Corinne, et donc jugement ce matin.
Oui, les mots du jugement sont cinglants. IKEA France est condamnée pour avoir, entre 2008 et 2012, institutionnalisé une politique généralisée d'enquêtes officieuses et de recherches déloyales et illicites sur ses salariés, mais également sur des clients. La société devra aussi payer plusieurs dizaines de milliers d'euros aux parties civiles, dont l'ancien syndicaliste Adel Amara.
Moi, j'ai eu 10 000 euros de dommages et intérêts, mais j'aurais même eu 50 centimes. Ça me va. Où je suis content aujourd'hui, c'est que la justice est passée quand même. Elle a condamné des gens. Après, c'est vrai que 1 million d'euros pour IKEA, c'est rien du tout. Mais c'est un début. Ça montre que le patronat ne peut pas faire n'importe quoi en France. À partir d'aujourd'hui, ils vont penser à 2 fois avant d'aller espionner leurs salariés.
Et parmi les anciens cadres, vous l'avez dit, l'ex-PDG d'IKEA, Jean-Louis Bayot, écope de 2 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Il est le plus lourdement condamné pour avoir, je cite, initié et cautionné cette pratique de surveillance généralisée. Alors du côté d'IKEA France, on accuse le coup. L'avocat de la société, Emmanuel Daoud, relativise cependant cette condamnation.
Nous sommes très loin s'agissant de la peine d'amende, du maximum qui est prévu par la loi, à savoir 3 750 000 euros. Le tribunal nécessairement a pris en considération le plan d'action qui a été mis en place par la société Meubles IKEA France, un des systèmes les plus performants de la protection des données personnelles en France, un plan d'action qui aujourd'hui est en vigueur.
Et on ne sait pas encore, Bruno, si la société va faire appel de la décision.
Corinne Audouin en direct de Versailles, un ancien président au tribunal à Paris dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est attendu cet après-midi pour son interrogatoire. Il comparaît pour financement illégal de la campagne, c'était en 2012. Il faut l'accord écrit des deux parents et celui oral du mineur. Depuis ce matin, la vaccination est ouverte aux plus de 12 ans, 5 millions de personnes potentiellement concernées. Est-ce que ça prend? Tout premier élément de réponse avec ce reportage de Boris Allier au vaccinodrome du Stade de France à Saint-Denis.
8h, les grilles du Stade de France s'ouvrent à peine. Julie et Lucie, 15 et 17 ans, trottinent derrière leur père. Pas question de louper le rendez-vous.
C'est pour protéger ma famille et moi. Ça va permettre à tout le monde d'être plus tranquille pour éviter la propagation du Covid. Et
hier soir, il y avait la place, on a pris, donc on est venu. Ce matin. C'est important pour tout le monde. Il faut que tout le monde se vaccine. Comme ça, on est tranquille, sinon ça va durer encore une année encore.
C'était important aussi pour Sephora. Elle a fait une pause dans ses révisions du bac de philo pour recevoir sa première injection.
Ça s'est super bien passé. Et franchement, j'ai eu peur au début. Je pensais que ça allait, j'allais avoir hyper mal, mais au final, détente. Genre vraiment. Comme ça, on peut retrouver un peu de notre liberté, voyager et reprendre la vie normale, quoi.
Une bonne chose de faite pour ces adolescents, mais certains comme Alex ont dû se laisser convaincre.
Pour me faire vacciner, ce qui m'a poussé à venir, c'est...
C'est maman. C'est quand moi je faisais ma deuxième injection, je dis que comme en plus c'était ouvert pour les jeunes, j'ai emmené en même temps mon fils. J'ai fait une pierre deux coups en même temps. De toute façon, s'il veut voir, sa mamie ou qu'il veut partir en vacances, il faut qu'il se fasse vacciner. Donc c'était un petit peu une obligation aussi.
Et on le rappelle, la présence de l'un des deux parents est obligatoire pour que les mineurs puissent se faire vacciner.
Et Véronique Julia, comme annoncé en titre, on vous retrouve. Le site Doctolib constate en effet un réel intérêt des ados ou de leur famille pour la vaccination.
Oui, en tout cas, le départ est plutôt encourageant. Je vous le disais tout à l'heure, pour les mineurs, la prise de rendez-vous est ouverte depuis hier. Et bien pour la seule journée d'hier, Doctolib a enregistré 62 000 prises de rendez-vous pour les 12-17 ans. C'est 25% du total des rendez-vous de la journée. Doctolib est même assez étonné de ce très bon démarrage. Plus globalement, par tranche d'âge, 82% des plus de 65 ans sont aujourd'hui vaccinés, 75% des plus de 50 ans. Pour les plus âgés, c'est, vous le savez, le dispositif Aller Vert qui devrait permettre de faire monter encore un peu les chiffres. Il faut aller les chercher pour espérer atteindre 85-90%. Désormais, les prises de rendez-vous spontanées concernent à 80% des moins de 50 ans. La moitié des rendez-vous sont même pris par des moins de 35 ans. La cadence des vaccinations reste très soutenue, avec 4 millions d'injections par semaine environ, ce qui correspond à 600-700 000 injections par jour. Une cadence qui devrait se maintenir dans les prochaines semaines. Doctolib s'attend à ce que ça ralentisse plutôt vers la mi-juillet. À noter qu'avec l'arrivée du vaccin de Moderna en pharmacie et chez les médecins de ville, la part de la vaccination en ville augmente. Elle représentait jusqu'à la semaine dernière 10% des injections. Désormais, c'est 20% et sans doute bientôt 30%. De leur côté, les centres de vaccination ont proposé hier soir 300 000 nouveaux créneaux de vaccination. Il y a donc, pour ceux que ça intéresse sans doute encore, à l'heure qu'il est, des créneaux à prendre, notamment en Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie, Bourgogne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
Et parmi les conséquences de cette crise sanitaire, les chiffres et études commencent à s'accumuler. Elle a bien et bien accéléré des transformations dans le marché de l'immobilier. Les notaires, en association avec le programme Action Cœur de Ville, ont rendu public une série de nouveaux chiffres ce matin. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Ces chiffres montrent un engouement pour une série de villes moyennes qui étaient un peu sous les radars jusque-là.
Oui, c'est le cas de Moulins, de Pau, de Rion, Besançon, mais aussi de Sète, Vernon, Longwy ou encore Autun, qui figurent parmi ces 222 villes du programme Action Cœur de Ville. Ces préfectures ou sous-préfectures qualifiées parfois de dévitalisées, des villes qui voient donc leur marché immobilier rebondir, et notamment dans leur centre-ville, historiquement en déclin, c'est nouveau. Hausse en moyenne de 14% des ventes entre 2018 et 2020, explique Peggy Montesinos du Conseil supérieur du notariat.
On voit un effet ville moyenne. Le marché de l'immobilier a été particulièrement résistant, voire même pour certaines villes a surperformé. C'est des villes qui sont plus à taille humaine et puis je crois qu'il ne faut pas se mentir aussi, le prix de ces villes est beaucoup plus attractif.
Attractif effectivement, avec un prix médian au mètre carré en moyenne de 1 300 €, mais en hausse de 7%, signe de biens qui se valorisent. Nouveauté également, le télétravail n'a fait qu'accélérer un mouvement déjà enclenché avant la crise, assure Roland Mouchel-Blaiseau, qui dirige le programme Action Cœur de Ville, et pas seulement, dit-il, dans quelques territoires bien situés.
C'est un mouvement qui concerne, y compris en profondeur de la France, beaucoup de villes moyennes. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'achat supplémentaire de foyers franciliens qui ont souhaité acquérir un appartement ou une maison en dehors de la région parisienne. Il y a un certain nombre de départements du centre de la France, ce qu'on appelait improprement parfois la diagonale du vide, ont une très forte attractivité.
Voilà, un petit bémol tout de même. 40% des villes du programme continuent d'être plutôt portées par leur périphérie, signe d'une fragilité toujours importante.
Quand la diagonale du vide retrouve de l'attractivité, cela fera partie des sujets de conversation avec Joël Giraud, secrétaire d'État à la ruralité, qui est notre invité à 13h30. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 01 45 24 7000. Vous vous souvenez qu'il y a plus de 2 ans, des centaines de millions d'euros avaient été récoltés pour le chantier de Notre-Dame après l'incendie. Et pourtant, la Fondation Notre-Dame de Paris lance un nouvel appel de fonds, 5 à 6 millions d'euros nécessaires. Alors comment expliquer cela ? Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Eh bien ce nouvel appel de fonds, Rémi, répond à des besoins différents, des aménagements intérieurs à la cathédrale que légalement l'argent récolté jusqu'ici ne peut pas financer.
Oui, car de l'argent, vous le disiez, il y en a déjà beaucoup, 833 millions d'euros récoltés pour restaurer Notre-Dame de Paris. Mais on parle bien de l'édifice et non pas de ces aménagements intérieurs qui vont servir à la liturgie dans la cathédrale et pour lesquels il faut 5 à 6 millions d'euros selon la Fondation Notre-Dame de Paris qui appelle aux dons Christophe Rousselot et son délégué général.
Le législateur a tenu à ce que la loi de souscription nationale porte exclusivement sur la restauration des conséquences de l'incendie touchant à l'édifice en lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, dans le fonds cathédrale de Paris de la Fondation Notre-Dame, nous distinguons clairement deux tiroirs. D'une part, le tiroir de la souscription nationale, la restauration, et d'autre part, les aménagements intérieurs.
Il s'agit notamment des bancs, de l'autel endommagé par la chute de la flèche ou encore de l'éclairage intérieur de Notre-Dame, des travaux pour la rendre encore plus belle qu'avant l'incendie pour les visiteurs.
Quand on poussera les portes du grand portail, ils redécouvriront une cathédrale vraiment plus belle avec un baptistère. Tous les mets, ces tableaux offerts par les corporations des orfèvres, rassemblés, restaurés et présentés à nouveau à l'œil du public. Et ça va être quelque chose vraiment d'exceptionnel.
Des travaux d'aménagement intérieur qui se termineront sans doute après la réouverture au public prévue pour avril 2024.
Et nous ouvrons à présent, avec regret, une assez longue page pollution des côtes dans ce journal. C'est dans l'actualité et dans la campagne des régionales. L'actualité d'abord, c'est le premier chantier pour l'installation d'un parc éolien en mer. Il a commencé le 3 mai en baie de Saint-Brieuc. 62 mâts doivent être installés en pleine mer. Et dans le zoom de la rédaction ce matin sur France Inter, on vous décrivait le chantier et notamment le navire chargé des forages.
Nous sommes donc en mer au large de la baie de Saint-Brieuc et nous voyons devant nous le bateau qui s'appelle Aeolus, qui est un bateau qui est monté sur des jambes, qui repose sur le sous-sol. Un bateau de 142 mètres de long, 45 mètres de large. Il y a 97 personnes qui travaillent en 24 heures sur 24 pour permettre de réaliser ces forages dans les meilleures conditions possibles.
Bonjour Célia Quiré.
Bonjour Bruno.
C'est vous qui avez réalisé ce reportage diffusé ce matin, ce chantier. Eh bien, il commence par un gros accroc, une fuite d'huile depuis ce gros navire qu'on vient de décrire, pollution d'ampleur significative.
Oui, ça tombe très mal pour la filière de l'éolien en mer. C'est cet énorme navire de chantier, l'Aeolus, un bateau hollandais qui a déclaré lui-même cette fuite d'huile de forage de 150 litres dès hier matin. Son réservoir fait 600 litres. La préfecture maritime a envoyé un communiqué cette nuit et la ministre elle-même a été prévenue ce matin, peu avant 9h. Il s'est donc passé 24 heures depuis le constat de cette fuite. La pollution a d'abord été observée par satellite, puis confirmé par un avion des douanes. Il s'agit d'une nappe d'huile de 16 km de long, de 3 de large, ce qui est assez étendu par rapport au volume déclaré par le bateau. Un bateau de dépollution, le sapeur doit d'ailleurs arriver sur zone. Alors est-ce un incident, un défaut de surveillance ? Le procureur de la République de Brest est désormais en charge du dossier. En tout cas, ce bateau qui était installé dans la baie pour creuser d'énormes trous dans les fonds marins et installer les fondations des éoliennes doit repartir dans un port pour des vérifications. Très en colère, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a convoqué ce midi le responsable français de l'entreprise, Iberdrola, chargé du chantier. Emmanuel Rollin, que l'on entendait à l'instant, a dû s'expliquer sur les circonstances de cette fuite. La ministre a bien insisté, l'exigence doit être très forte sur cette filière. Le principe, c'est la tolérance zéro. En attendant, les pêcheurs ont décidé, eux, de porter plainte contre la société Elmarine, qui ne s'exprime pas pour le moment.
À Saint-Brieuc, on déplore cette grosse fuite d'huile. En Corse, on se débat avec des boulettes d'hydrocarbures, conséquence de ce qui est très probablement un dégazage sauvage avant le week-end. Plusieurs tonnes d'hydrocarbures ont été récupérées au fil du week-end. La pollution est désormais plus limitée. Des nappes qui se sont un peu disloquées, quelques arrivées sur les plages, des petites galettes. C'est la côte est qui est touchée, la zone qui va de Ghisonaccia à Porto Vecchio. Plusieurs plages fermées. Trois navires sont soupçonnés et localisés, a précisé ce matin sur France Inter la ministre de l'écologie Barbara Pompili. Alors il y a la pollution accidentelle, il y a celle comme ici en Corse, qui relève d'un acte de banditisme. Et puis, il y a celle qui met en cause les pratiques agricoles. Ça, ce sont les algues vertes en Bretagne. Sujet de campagne électorale, la Bretagne. Voici notre étape du jour dans le cadre du Tour de France des régionales. Dans cette terre centriste, selon les intentions de vote, le Rassemblement national pourrait virer en tête au premier tour. Juste derrière, il y a les deux héritiers de Jean-Yves Le Drian, ministre à la fois de François Hollande et d'Emmanuel Macron. L'issue du scrutin est particulièrement incertaine. Et donc, Karine Bécard, sujet de débat, la pollution aux algues vertes.
Alors soyons clairs, gérer les algues vertes, ce n'est pas du tout une compétence du Conseil régional, mais c'est une question incontournable qui est au cœur cette année de cette campagne électorale. Comment lutter contre ces algues vertes pour le président sortant Loïc Chesnais-Girard, celui qui a succédé en 2017 à Jean-Yves Le Drian? Il faut continuer à concilier l'économie agricole et l'écologie.
Il faut une production maximum durable. Et qu'on soit en bio ou en conventionnel, on doit produire de bons produits dont on est fier, qui nourrissent la Bretagne, qui nourrissent la France, qui nourrissent Paris.
Et c'est là tout l'enjeu. La Bretagne, ce sont 3 300 000 Bretons, mais ces agriculteurs produisent pour 17 millions de Français. Comment freiner cette production intensive? Thierry Burlot, le candidat de La République En Marche, estime qu'il faut confier à la région la gestion des subventions de la PAC.
Les 600 millions d'aides qui sont apportées annuellement aux agriculteurs bretons, être en charge du déploiement de cette politique publique pour mieux concilier économie et écologie agricole.
Ce qui fait sourire le candidat RN, Gilles Pénel.
C'est effectivement l'un des échecs de la majorité régionale sortante, entre autres de M. Burlot, qui était le vice-président à l'environnement et à l'eau.
Mais Gilles Pénel ne fait aucune proposition. La verte, Claire Desmarres-Poirier, considère sans surprise que tout le système de production est à revoir. Même diagnostic pour l'écologiste Daniel Cueff, stopper les intrants, mais sa méthode est différente.
Nous travaillerons avec eux ces solutions, mais ce seront leurs solutions, pas les nôtres. Et à ce moment-là, nous les financerons.
Donc arrêtez avec l'agribashing et misez sur une opportunité. Un agriculteur sur deux en Bretagne d'ici à 2030 doit prendre sa retraite.
Et les détails de cette campagne avant le premier tour lundi, vous les trouvez sur franceinter.fr. L'histoire du bulletin de vote et de l'isoloir dans le vif de l'histoire tout à l'heure avec Jean Lebrun. Et avant ce premier tour, deux institutions et même trois qui représentent la communauté juive donnent leur consigne de vote. Ce n'est pas la première fois que le CRIF le fait. C'est la première fois qu'il s'associe avec le Consistoire central et le Fonds social juif unifié pour appeler à rejeter ce que ces institutions appellent les extrêmes, Rassemblement national, France insoumise et une partie des écologistes. Écoutez le président du CRIF, Francis Khalifa.
Le CRIF, en règle générale, s'exprime seul. C'est l'urgence de la situation qui fait que nous soyons regroupés pour bien montrer la nécessité de la mobilisation.
Qu'est-ce qui fait que vous renvoyez dos à dos le Rassemblement national, parti d'extrême droite, et la France insoumise, qui se définit comme un parti de gauche républicain?
L'ensemble des partis politiques ne considère plus la France insoumise comme un parti républicain. Lorsque Jean-Luc Mélenchon prétexte une stigmatisation des musulmans en parlant des attentats qui ont endeuillé la communauté juive et qui ont endeuillé la France, on est sorti du champ républicain et je crois que c'est ce qui fait que aujourd'hui notre appel n'est pas uniquement à écarter le Rassemblement national, mais à écarter l'ensemble des partis extrémistes. On a toute une partie des écologistes également. Il est aujourd'hui des extrêmes qui représentent un danger pour la République et je crois qu'il faut alerter nos concitoyens sur le risque des extrêmes.
Le président du CRIF, Francis Khalifa, avec Laurence Perron. La politique aujourd'hui, c'est encore une remise de décoration très symbolique en cette mi-journée à l'Élysée. Emmanuel Macron remet à son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, la médaille de grand officier de la Légion d'honneur. Les États-Unis sont de retour, c'est la phrase clé de la tournée de Joe Biden en Europe. Sommet États-Unis-Union européenne aujourd'hui pour marquer le rapprochement. Après les années Trump, les deux devraient mettre de côté le conflit Airbus-Boeing. Les deux puissances s'accuse depuis des années d'aide publique illégale et en rétorsion joue des taxes pour défavoriser le concurrent. Une trêve dans cette bataille devrait être actée et prolongée de 5 ans. Elle avait déjà été actée en juillet dernier. Prolongation de 5 ans attendue. Donc, depuis le début de sa tournée, Joe Biden pousse pour que ses partenaires au G7, à l'OTAN, en Europe, adoptent une des priorités stratégiques des États-Unis. Contenir la Chine. Nous devons faire face aux défis posés par la Chine pour notre sécurité, a par exemple déclaré hier le secrétaire général de l'OTAN. Et Pékin ne cache pas son agacement sur le thème mentalité de guerre froide. Les États-Unis cherchent-ils la confrontation? À Pékin, Stéphane Pambrin.
Même si le secrétaire général de l'OTAN a écarté la perspective d'une nouvelle guerre froide avec la Chine, Pékin s'est senti visé. Après le G7, cette réunion de l'OTAN est une nouvelle preuve, selon la diplomatie chinoise, de la mauvaise foi des Occidentaux. L'ambassade de Chine auprès de l'Union européenne a publié un communiqué où elle explique que l'OTAN cherche à créer un climat de confrontation alors que la Chine est pacifique et disposerait de 20 fois moins de têtes nucléaires que les membres de l'OTAN. Pour Pékin, l'Alliance Atlantique doit corriger sa position. Écoutez Zhao Lijian, il est porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pékin.
En tant que plus grande alliance militaire au monde, l'OTAN devrait abandonner sa mentalité de guerre froide et ses préjugés idéologiques, considérer le développement des relations avec la Chine et la Russie de manière objective, positive et ouverte, et faire davantage pour maintenir la paix et la stabilité internationale et régionale.
Aujourd'hui, le quotidien nationaliste Global Times a averti que la Chine ne resterait pas les bras croisés et surveillera de près les ajustements stratégiques de l'OTAN. Si ce n'est pas encore la guerre froide, cela y ressemble de plus en plus. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
À propos de la Chine, faut-il croire le régime ? Rien d'anormal, dit Pékin à la centrale nucléaire de Taishan. Lundi, CNN évoquait une possible fuite dans cette centrale, fuite radioactive. De son côté, EDF reconnaît la présence de gaz rare dans le circuit primaire du premier réacteur, dégradation de quelques crayons, la gaine qui contient les pastilles d'uranium.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Ce n'est pas si souvent dans l'histoire du football que la France se présente face à l'Allemagne dans une grande compétition dans le maillot du favori. Mot à prononcer avec précaution. Les champions du monde en titre contre leurs prédécesseurs, c'est donc l'affiche du jour. Ce soir à 21h à Munich, France-Allemagne. Les Bleus font leur entrée en lice dans l'Euro avec ce match choc. Bonjour Alexandre Vaux.
Guten Morgen, Bruno, ou peut-être Guten Abend à cette heure-ci.
Vous êtes en direct de Munich, quoi qu'il en soit. Pas beaucoup de suspense pour la composition de l'équipe de France, Alexandre.
Non, et c'est tant mieux, hein, car les Français ont sur le papier, on peut le dire, la meilleure équipe de la compétition, en tout cas, la meilleure attaque. Je vous la rappelle, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema de retour de blessure. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, Paul Pogba et Adrien Rabiot. Et puis en défense, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et les deux latéraux du Bayern Munich, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, qui connaissent bien le stade où se jouera le match ce soir. Enfin, dans les buts, le gardien et capitaine Hugo Lloris. Voilà pour le 11 de départ. La France a les armes pour l'emporter. La suite dépendra de sa prestation ce soir, notamment si elle obtient un pénalty, puisque les Bleus, attention, en ont loupé 5 sur les 8 derniers. Alors, entre attaquants, on se dispute le choix de tirer, Bruno, même si ça devrait être à Antoine Griezmann de s'y coller tout à l'heure.
C'est bien noté. En face, l'équipe d'Allemagne éliminée dès le premier tour au dernier mondial. Est-ce qu'on peut parler d'une équipe en reconstruction ?
Oui, depuis le cuisant échec, je vous le rappelle, au dernier mondial en Russie, les tenants du titre éliminés dès le premier tour, la pire campagne allemande depuis 1938. Mais la reconstruction prend du temps. Alors le sélectionneur Joachim Löw, sur le départ, a rappelé des trentenaires expérimentés comme le défenseur Mats Hummels ou l'attaquant Thomas Müller. La Mannschaft, attention, est sur une pente ascendante. Elle jouera devant son public. Ce soir, environ 14 000 personnes autorisées par le Land de Bavière. Oui. Et puis on sait qu'un France-Allemagne, Bruno, c'est souvent euphorique, voire tragique. Les Allemands reconnaissent la supériorité des Français, mais restent confiants et n'ont pas hésité à annoncer qu'ils joueront sale ce soir. Ouais. Entendez jouer musclé, on peut dire que le décor est planté.
Et le coup d'envoi, c'est à 21h. L'arbitre est espagnol, Carlos del Cerro Grande. Et même s'il gagne ce soir, les Français mettront un genou à terre. Mais ce sera avant le coup d'envoi. Ce geste, devenu symbole de la lutte contre le racisme, en particulier du soutien au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Bonjour Stéphanie Morin. Vous aussi en direct de Munich, les joueurs belges, anglais, gallois, suisses ont adopté ce genou à terre avant le coup d'envoi. Les Bleus ont prévu de faire de même ce soir.
Oui, jusqu'à présent, l'équipe de France assumait la lutte contre le racisme avec un message écrit sur ses maillots d'échauffement bien souvent. Une seule couleur, celle du maillot. Depuis, les Bleus sont allés plus loin. Ils ont posé genou à terre contre les Gallois en match amical il y a 15 jours, juste avant le coup d'envoi. Et c'était pendant la coupure pub à la télé. Marcel Desailly salue ce geste, mais l'ancien défenseur international et champion du monde trouve les joueurs un peu seuls dans ce combat.
Si j'avais été un joueur, j'aurais peut-être été un petit peu lassé. Parce que c'est un truc récurrent, c'est une forme d'obligation. Ce sont des acteurs, à un moment, oui, on les a utilisés pour qu'ils montrent la voie, mais à côté de ça, il faut que les instances dirigeantes, UEFA, FIFA, Fédération, fassent un effort supplémentaire pour amener une vraie valeur ajoutée à ces gestes symboliques.
Voilà, en clair, hein, Marcel Desailly veut des sanctions pour en finir. Toujours sur France Info ce matin, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, estime que les joueurs doivent continuer de porter ce message.
On a besoin aujourd'hui de l'engagement des sportifs. Les joueurs sont des véritables médias aussi. Nous avons carrément passé dans la loi pour les principes de la République l'engagement du mouvement sportif aux côtés de l'État pour lutter contre ce fléau, l'engagement des instances, des réglementations, des sanctions lorsque c'est nécessaire, et puis aussi de la sensibilisation, de la prévention, de la formation.
Mais oui, des preuves que le combat est loin d'être gagné. Vous le disiez, hein, Bruno, depuis le début de l'Euro, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre ont posé genoux à terre, mais à chaque fois sous les sifflets ou la bronca.
Et le sujet est politique en France. On entendait Roxana Maraciné à nous, à droite ou à l'extrême droite. Quelques hommes politiques dénoncent ce geste de l'équipe de France. Christian Estrosi, par exemple, sans dénoncer, il demande aux Bleus de préciser très clairement que ça ne peut pas être interprété comme un geste à l'égard des forces de sécurité. On sait que Black Lives Matter est né en réaction aux violences policières aux États-Unis. Coup d'envoi du match donc ce soir à 21h avec ce geste des Bleus.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est encore très estival aujourd'hui.
Oui, un soleil bien installé. Alors quelques passages nuageux tout de même sur le Nord-Pas-de-Calais. Des nuages aussi sur le relief du Sud avec quelques averses. Parfois de l'orage sur les Alpes du Sud et sur les Pyrénées. Au sud de la Garonne, quelques nuages et une ondée possible. Et puis l'ambiance, vous l'avez dit, est très estivale. Ça reste très chaud aujourd'hui. 35 degrés à Perpignan, Nîmes et Bordeaux. 34 à Toulouse, à Grenoble, 33 pour Limoges et pour Colmar, 31 degrés à La Rochelle, au Mans, à Paris aussi, 29 degrés à Ajaccio ou à Rennes, 27 à Cambrai, 22 à Cherbourg, c'est à peu près la température qu'il fera ce soir pour le coup d'envoi du match des Bleus. Et puis demain, il fera encore un petit peu plus chaud, Bruno, souvent 33 à 36 degrés, alors sauf près de la Manche où on respirera toujours mieux, et puis près de la Méditerranée, ça commencera un petit peu à baisser aussi avec l'installation d'un vent marin, et tout ça sous le soleil, mais attention, une dégradation orageuse s'invitera par l'ouest avec des orages qui deviendront parfois forts en soirée sur le sud-ouest.
Élodie Calac, Météo France, mais qui connaît donc aussi les températures à Munich. Nous parlons d'Europe.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Avec la chronique du mardi de Delphine Simon. Bonjour Delphine.
Bonjour.
La séquence euro-américaine se poursuit cet après-midi à Bruxelles. Le président des États-Unis Joe Biden a rendez-vous avec les deux têtes de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen et Charles Michel, après avoir clos le sommet de l'OTAN. L'un des enjeux, c'est de savoir au fond si l'Europe décide à affirmer un peu plus son autonomie ou se réfugie sous le parapluie américain.
Oui, il y a deux ans, souvenez-vous, le milliardaire américain Donald Trump, président des États-Unis à l'époque, lors du dernier sommet de l'OTAN, suscitait un tollé en faisant la leçon aux Européens. Ils ne dépensaient pas assez pour la défense. Changement de ton cette fois-ci avec Joe Biden. Dès son arrivée, le président américain a brandi l'article 5 du traité de l'OTAN. La défense d'un allié reste une obligation sacrée pour les États-Unis. La question financière aussi, ça pèse. Depuis 2017, les pays européens ont tous fortement augmenté leur budget militaire. 10 des alliés des États-Unis, dont la France, consacrent aujourd'hui au moins 2% de leur richesse à la défense, comme promis.
Et l'Amérique est de retour?
Oui, c'est l'America is back, effectivement. C'était le sommet des retrouvailles avec les États-Unis. Elles ont eu lieu. Les alliés ont jeté les bases du futur concept stratégique de l'Alliance pour 2030. Ils ont aussi pointé les nouveaux ennemis, le cyberterrorisme, la Russie ou la Chine. Même si tous ne partagent pas avec le même enthousiasme que Joe Biden, la description de la menace chinoise. Emmanuel Macron en particulier ne cache pas sa réserve. Paris et Berlin refusent de s'aligner totalement sur Washington. À son arrivée, le Hongrois Orban, très lié à Pékin, affirmait lui aussi qu'il ne veut pas revivre une guerre froide et le Néerlandais Mark Rutte plaidait pour le dialogue. Malgré ces nuances, la concorde transatlantique a bel et bien été célébrée.
Peut-on carrément parler de nouvel élan pour l'Alliance Atlantique?
Alors certes, le débat est plus paisible avec Joe Biden qui joue le dialogue, mais l'UE n'est plus la même. Elle cherche ses propres éléments de réponse. Elle doit défendre ses intérêts pour l'industrie, les technologies, affirme le commissaire européen Didier Reynders. Mais au-delà des mots, les velléités d'un pilier européen de l'Alliance Atlantique, tel que le voulait Emmanuel Macron, s'éloignent. Vis-à-vis des États-Unis, la France d'ailleurs ne pourra pas se battre sur tous les fronts. La taxe GAFA, le climat, les vaccins Covid et défendre une défense européenne. En pleine pandémie, la priorité est d'ailleurs plutôt d'enterrer la hache de guerre dans le conflit commercial entre Airbus et Boeing. L'épisode Trump est révolu et bon nombre d'États européens veulent donner un bon coup de peinture à l'OTAN, repartir comme si de rien n'était. Hier à Bruxelles, aucun sommet Europe-OTAN n'est venu appuyer cette volonté d'autonomie officiellement pour cause d'agenda. C'est mauvais signe.
Delphine Simon, la chronique européenne le mardi dans le journal de 13h28. Vous habitez à la campagne, ce qui suit vous intéresse, c'est d'ailleurs pas que vous, le secrétaire d'État à la ruralité, notre invité dans un instant.
Les dimanches 20 et 27 juin, rendez-vous pour voter et élire les conseillers de votre région et de votre département.
C'est un double scrutin régional et départemental, sauf en Alsace, en Corse, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, où vous voterez pour une assemblée unique.
Pour les régionales, vous choisissez à partir des listes de candidats. Ces conseillers, élus pour 6 ans, composent l'assemblée délibérante et élisent le président de région.
Pour les départementales, vous choisissez un binôme de candidats, une femme et un homme, dans chaque canton. Les conseillers, élus pour 6 ans, élisent alors le président du département.
Exprimez votre voix par les urnes dans un bureau de vote ou par procuration les 20 et 27 juin.
Quand Nathalie a pris le forfait mobile Orange 70 gigas à 9,99€, elle a
profité de ses gigas à fond.
Pour Bruno,
c'est fou à ce prix.
Et tout en profitant
de la qualité du réseau Orange.
Un bon plan comme ça.
Ça se partage.
Mais
relax,
il y en aura pour tout le monde.
Des gigas à gogo avec le forfait Orange 70 gigas pour 9,99€ par mois pendant un an, puis 34,99€.
Orange.
Valable jusqu'au 8 juillet, réservé aux nouveaux clients. Pendant 12 mois, 15€ remboursés et 10€ de remise immédiate. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr.
À l'écoute des pros avec le Crédit Agricole. Après la crise économique de 2020, le Crédit Agricole accompagne les entreprises qui souhaitent se relancer et se développer. Pour tout savoir, c'est dans un instant.
Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
Dans l'agenda hebdomadaire du gouvernement, vous savez sans doute que c'est le mercredi que se tient le Conseil des ministres. Vous ne savez peut-être pas que le mercredi, il y a un autre rendez-vous, celui-ci.
Bonjour à tous. Comme tous les mercredis, c'est la pause rurale.
La pause rurale, et oui, c'est le clin d'œil hebdomadaire sur les réseaux sociaux du secrétaire d'État chargé de la ruralité. Bientôt un an qu'il est en fonction, sous la tutelle de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, un secrétaire d'État pour dire au pays des gilets jaunes et des campagnes électorales qu'on n'oublie pas la ruralité. Mais quelle réponse aux grandes questions qui traversent les campagnes? La désertification rurale, les zones blanches pour Internet, le portable, les fermetures de classes, les transports. Vous habitez en zone rurale, c'est le moment d'intervenir au 01 45 24 7000 au standard et via l'appli France Inter. Bonjour Joël Giraud.
Bonjour.
Secrétaire d'État chargé de la ruralité, à quoi ça sert ?
Eh bien, ça sert déjà à faire en sorte que les 181 mesures qui ont été établies justement après la crise des gilets jaunes, oui, et qui étaient des mesures de revitalisation de la ruralité puissent être mises en œuvre. Parce que quand vous êtes secrétaire d'État sur un thème comme celui-là, ben vous devez faire quoi? De l'interministériel avec tous vos collègues ministres pour
c'est
faire
ça,
en sorte
vous avez pas
que
de budget
ces mesures...
Propre.
Si, il y a des budgets propres. Il y a des budgets propres qui sont ceux du ministère de la Cohésion des Territoires,
oui,
et qui sont donc des budgets déjà assez importants. Mais au-delà, il y a des questions, par exemple la santé, qui ne concernent absolument, oui, pas mon ministère. Mais ces questions sont pour autant traitées, puisque j'ai entamé un dialogue qui sont des bilatérales, j'allais dire, avec tous les ministres, qui aboutissent à des comités interministériels à la ruralité, où on prend un certain nombre de mesures intéressantes et qui aujourd'hui sont des mesures qui font que pratiquement les trois quarts de l'agenda rural est aujourd'hui réalisé.
Vous êtes celui qui vient toquer à la porte des ministres en disant n'oublie pas les campagnes.
C'est complètement ça. On a même fait nommer des référents ruralité dans les grandes administrations de l'État, pas seulement dans les cabinets, mais dans les grandes administrations de l'État, également sur le territoire, dans les préfectures, de façon à ce que nous ayons ces relais permanents et que la ruralité, j'allais dire, soit une politique transversale de tous les ministères et de tous les territoires.
Vous êtes un des membres du gouvernement qui va le plus sur le terrain, et c'est normal, étant donné votre fonction. Alors, vous allez me dire, on fait déjà plein de choses, mais quand même, qu'est-ce qui remonte des campagnes? Quel ressenti? Quel discours vous tient-on? Voilà, comment vous sentez ces campagnes?
Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les campagnes ne soient pas dans une situation de se dire « on fait des choses pour les villes, mais on ne fait rien pour nos campagnes ». Or, c'est effectivement les choses que l'on a complètement inversées. Vous citiez, par exemple, tout à l'heure, dans vos propos introductifs, la problématique des réseaux, et des réseaux de l'accès à la 4G, par exemple. On a quand même changé complètement de politique. On a abandonné 3 milliards de recettes sur les opérateurs pour pouvoir chercher les zones blanches, ce sont les préfectures et les départements qui recherchent ces zones. Et on
pour
prend
la 4G,
des
ça a bien avancer. La 5G, on est loin.
La 5G, on est encore loin. Mais pour autant, il y a une politique sur la 5G dans les zones rurales, avec des expérimentations d'ores et déjà en montagne qui sont menées parce que nous avons souhaité que les campagnes ne soient pas non plus absentes de la 5G.
Mais ma question, c'était aussi le baromètre. Voilà. Comment sentez-vous le pays à travers vos discussions?
Écoutez, moi, ce que je ressens, c'est que les élus locaux, parce que malheureusement, avec la crise de la Covid, on n'a pas pu faire des grandes réunions avec, j'allais dire, des messes tout à fait classiques où on rencontre tout le monde. Mais on a quand même me rencontrer beaucoup d'élus. Les élus, vous le savez, dans la ruralité, quand vous êtes dans un village de 300 habitants et que vous voyez le conseil municipal, de manière générale, vous voyez quasiment toutes les familles de la commune, ben, ils ressentent cette volonté politique de faire en sorte de réinstiller du service public auprès des populations. Vous savez, c'est l'opération des Maisons France Service qui a franchement un grand succès. Parce qu'en plus, si vous voulez, c'est pas seulement aller dire à des gens, vous avez des services que vous avez perdus et qui vont revenir. C'est aussi leur dire, il y a des services à lesquels vous n'aviez jamais accès, comme Pôle emploi, par exemple, qui viennent sur vos territoires. Et à partir de ça, parce que moi, je crois aux territoires, ces territoires bâtissent des politiques publiques. Ce sont des territoires de projet. Et nous, nous les accompagnons avec des accompagnements financiers souvent, comme le programme qui avait été voulu vraiment à l'époque de l'agenda rural, qui était Petite Ville de demain. Vous savez, ne pas seulement considérer qu'on mettait de l'ingénierie mais dans des grandes villes de plus de 20 000 habitants, mais qu'on passait au niveau en dessous, c'est-à-dire l'ensemble des bourgs-centres pour mieux irriguer l'ensemble de la ruralité, parce que quand vous sauvez un bourg-centre, vous sauvez une vingtaine de communes tout autour.
La parole aux auditeurs dans un instant. Toujours sur le climat, la tournée d'Emmanuel Macron en France et atteint l'Ermitage, une gifle. Qu'est-ce que ça raconte du climat ?
Ça raconte un climat qui est un petit peu délétère, où l'information se fait plus par les réseaux sociaux que elle ne se fait par les moyens d'information comme le vôtre. Et en fait, quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps dans la société, avec un président qui va aussi bien vers les gens, donc j'allais dire les plus exposés que d'autres sur ce plan-là. Mais pour moi, ça dénote de quelque chose qui est une abomination, c'est-à-dire le non-respect des institutions républicaines. Et le non-respect des institutions républicaines, eh bien, il doit être sanctionné. Il a été sanctionné sur cette fois-là. Vous savez, c'est comme François Bayrou avait donné une gifle à un gamin qui lui faisait les poches. Il y a des gens qui s'en sont offusqués. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de particulièrement naturel. C'est de la prévention, j'allais dire, normal.
Pauline, au Standard de France Inter. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous êtes ce qu'on appelle une néo-rurale, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. J'ai vécu 37 ans à Paris et j'ai eu le projet fou avec mon mari de venir en Aveyron il y a 7 mois. Et alors là où je suis très très surprise, c'est de voir autant de maisons fermées. Et du coup, je me pose la question de ceux qui occupent le territoire et qui ne le font pas vivre. Et ça me pose beaucoup de questions par rapport à l'école, parce qu'on a deux classes, 38 enfants et beaucoup qui vont aller au collège. Et je m'inquiète pour ma fille, savoir si elle aura toujours l'école dans le village.
Merci Pauline. Alors il y a deux questions. D'abord, boom des achats de maisons à la campagne, disent les notaires. Est-ce que ce sont des résidences secondaires et donc des maisons qui, les trois quarts de l'année, sont vides et ne font pas vivre les campagnes?
Il y a les deux. Il y a effectivement des résidences secondaires. Les gens se disent, bon, on a connu des périodes de confinement. Si jamais ça arrive, on va quand même acheter quelque chose. Mais dans des endroits, je dirais bien particuliers, avec une accessibilité, des réseaux, justement, qui fonctionnent. Mais il y a aussi des gens qui décident définitivement de s'installer. Et il y a aussi des politiques publiques dans un certain nombre de départements. Je vous citerai volontiers la Nièvre, où, qui a fait tout simplement une politique publique départementale, qui s'appelle Habiter donc la Nièvre, et qui offre, entre guillemets, pendant trois jours, un séjour à des gens venus de zones urbaines pour leur montrer que finalement, on peut habiter dans ces zones. Et pour répondre plus précisément à la question de madame, c'est vrai qu'elle a raison. Tout ce qui est habitable est acheté, mais il y a des choses qui ne sont plus habitables, qui sont complètement en déshérence. Et ce qui est en déshérence, justement, dans la future loi, qui est la loi de décentralisation, la loi 4D complémentaire, on va avoir des mesures pour faire en sorte que les prescriptions sur ces maisons passent de 30 à 10 ans, et des moyens renforcés pour que les collectivités puissent se saisir d'un bâti que plus personne n'utilise depuis maintenant des années. Je crois que ça fait partie de ces réponses que nous devons apporter à la ruralité.
Ces mouvements du marché immobilier, on parlait des villes moyennes jusque-là sous les radars qui rencontrent plus de succès qu'avant. À la campagne, est-ce que c'est porteur d'espoir, porteur de choses positives pour le futur ou plus compliqué? Je voudrais vous citer le message de Rémi, je suis ouvrier agricole en Isère. L'achat de logements devient difficile, on est en concurrence directe avec des ingénieurs, des chefs d'entreprise, on n'a plus la possibilité de trouver des logements, s'ajoute à ça la vague des télétravailleurs.
Bah, je crois que bon,
il y a la place pour tout le monde.
Je crois qu'il y a actuellement de la place pour tout le monde dans la ruralité française. Vous voyez des espaces entiers qui ne sont pas habités. Peut-être que dans l'Isère, il y a une problématique particulière, c'est-à-dire qu'on est quand même dans du périurbain. Vous êtes toujours dans la conurbation entre Lyon et Grenoble quand vous êtes dans le département de l'Isère. Le département de l'Isère, vous savez, il est plus près de l'aéroport de Lyon que même la ville de Lyon. Et je crois que la difficulté, ça va être effectivement cette reconquête des centres-bourgs pour ne pas artificialiser les sols et faire en sorte que des agriculteurs puissent continuer à exploiter sur des territoires comme les nôtres. En plus, on est sur des politiques qui ont prouvé leur efficacité pendant la dernière crise de la Covid. Tous les endroits où les circuits courts fonctionnaient bien ont été particulièrement efficaces pour l'agriculture locale. local. Donc, on a des programmes alimentaires territoriaux pour ce faire, d'ailleurs.
Allez vous installer à la campagne ou dans les petites communes, mais allez plutôt dans les centres-bourgs. C'est là qu'il faut revitaliser, c'est ce que vous dites?
Je dis qu'il vaut mieux aller effectivement dans les centres-bourgs ou racheter de l'habitat qui est de l'habitat ancien et en perdition quelquefois, y compris en dehors des centres-bourgs, plutôt que de faire de l'artificialisation sur des zones qui seraient des zones agricoles. C'est-à-dire, pour être clair, le fameux lotissement classique que l'on voit partout et qui ressemble d'ailleurs fichtrement que vous soyez à côté de Grenoble ou en Île-de-France. Et c'est l'objet justement de la loi climat et résilience.
Notre auditrice parlait du péril de fermeture des classes, du risque de fermeture de classes. C'est quelque chose qui revient beaucoup et dont vous entendez beaucoup parler. Moratoire ou pas des fermetures de classes à la rentrée prochaine? Il y a un moratoire qui avait été décidé l'année dernière dans le cadre du Covid. Moratoire ou pas cette année?
Un moratoire de fermeture d'école, mais pas de fermeture de classes, ce qui est complètement différent.
Ouais.
Je pense que c'est le type de moratoire où tant que la situation n'est pas stabilisée, il faut aller vers ce type de moratoire pour que des écoles ne ferment pas.
Claude, bonjour Claude.
Bonjour, merci de prendre mon appel et
merci
bonjour
monsieur
le secrétaire d'État.
Bonjour.
Alors je vais essayer d'aller vite. Moi ma question en fait c'est l'accès pour les enfants du monde rural aux études supérieures, mais notamment dans les écoles prestigieuses. Moi je l'ai vécu à travers le parcours de mon gamin. Donc j'habite en Ardèche, où le seul département de France où il n'y a pas de gare ni de transport voyageurs. Donc mon gamin pour sortir de l'Ardèche, il a plus de 2 heures de bus et après il prend le train. Mais bon voilà, le problème pas là, mais si vous voulez, il y a un ensemble d'éléments qui constituent, on va dire, une espèce de déterminisme ou plafond de verre comme vous voulez, qui fait que la plupart des parents en fait voilà, ils envoient, alors attention, je fais absolument pas de distinction, de hiérarchie dans les études, mais ils vont tendance à envoyer systématiquement leurs enfants dans les filières courtes, et notamment BTS, DUT, et éventuellement en fac, où les gamins, c'est compliqué pour eux, ils font pas grand-chose. Et puis bon, moi je vois mon gamin, il est dans une école supérieure à Paris, et ça a été très dur de trouver il est en prépa, ça a été très dur de trouver un logement, parce que les salaires chez nous sont pas forcément élevés, donc vous pouvez pas vous porter garant. Vous voyez, on vous demande 4 mois de salaire, etc. Il faut tel montant, plus de 4000 euros, c'est très compliqué. Et même en fait, quand ils sont là-bas, vous voyez, on voit bien que lui, petit gamin qui vient d'une classe unique dans un village de 300 élèves, c'est compliqué même, on va dire, 15 ou 17 ans après de s'intégrer dans une école prestigieuse.
Merci, voilà. Merci pour ce témoignage. Joël Giraud, quelle réponse?
Déjà, dire à ce monsieur que je le comprends, puisque moi je suis né et j'ai toujours habité dans le nord du département des Hautes-Alpes, et que pour aller en classe prépa à Lyon, il fallait que je passe 2 fois la frontière franco-italienne dans les deux sens. Donc j'ai quand même l'habitude de ce genre de situation. Alors la réponse, elle vient d'une part avec une opération que nous menons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est-à-dire les campus connectés. Il y a beaucoup de campus connectés qui ouvrent. Il y en a qui ouvrent en Ardèche, justement, pour faire en sorte que ce soit la fac qui se déplace vers ces sites-là. Et je suis allé visiter par exemple celui de Nevers qui est dans la Nièvre, là encore, où il y avait énormément d'étudiants qui, sans ça, auraient arrêté leurs études définitivement parce qu'ils ne voulaient pas aller dans un certain nombre de très grandes villes.
Et il y a des grandes écoles sur ces campus connectés, parce qu'il parlait des grandes écoles et symboliquement,
s'agissant des grandes écoles, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais vous savez, on est déjà en train de faire des liens, notamment avec une association qui s'occupe de nos volontaires territoriaux en administration, qui sont des jeunes ruraux qui s'implantent pour faire en sorte qu'il y ait de l'ingénierie dans les petites communes. Et cette association qui s'appelle des territoires aux grandes écoles est en train de favoriser l'accès aux grandes écoles, justement, de ces gens qui commencent des cursus dans nos territoires. Mais il est vrai qu'il y a toujours une certaine intelligence parisienne qui a des difficultés. Moi, je suis arrivé un jour à l'École nationale d'administration, le premier mot qu'on m'a dit, c'était « il conviendra tout du moins de ne point trop exhiber votre ruralité ».
Allez, je voudrais qu'on prenne un tout dernier appel. C'est Patrice, est-ce que vous pouvez faire court, s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps.
Oui, bonjour. Vous venez de parler de respect des institutions républicaines. Au fronton des mairies, il y a liberté, égalité, fraternité. Dans les zones rurales, comme dans certaines zones citadines périphériques, on manque cruellement de médecins. Où est l'égalité? Donc pourquoi ne pas instaurer une répartition des médecins sortants sur tout le territoire national, sur 3 à 5 ans, à la campagne comme à la ville, à l'image de ce qui se fait dans l'éducation nationale?
Merci pour cette question. On voit bien qu'à propos de la désertification médicale, il y a un moment où il faudra passer à des méthodes plus coercitives. Est-ce que vous y êtes prêt? Est-ce que vous l'envisagez?
Alors, en attendant les méthodes coercitives, parce qu'elles peuvent avoir un autre effet, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'étudiants qui aillent vers un certain nombre de formations médicales dès lors qu'on leur impose d'aller sur un territoire particulier. C'est un risque qui est énorme. Je fais partie des gens qui, en tant que parlementaire, ont déposé des amendements dans le sens, je dirais, de la coercition. Je suis un fonctionnaire d'État assez classique, j'ai devé 8 ans de ma vie à l'administration. Pour l'instant, on est en train d'étudier un certain nombre de mesures qui me sont importantes. D'abord, vous le savez, le numerus clausus a été augmenté, ce qui va permettre que l'effet ciseau soit un petit peu différent. Mais au-delà, nous allons faire en sorte que demain, d'abord, la télémédecine, qui n'était pas remboursée, sauf en période de Covid, soit remboursée de manière définitive, c'est le cas aujourd'hui. Nous faisons en sorte aussi que dans la loi 4D dont je parlais tout à l'heure, il y ait la possibilité que les collectivités locales à la fois investissent, mais aussi salarient des médecins. Il y a des expérimentations, par exemple, en Saône-et-Loire, qui est un des départements les plus touchés sur ce plan-là. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien avec les agences régionales de santé, de façon à placer des médecins dans ces zones, qui d'ailleurs ne sont pas toujours des médecins salariés, puisque au bout d'un moment, quand vous récupérez une clientèle, vous repassez en médecine libérale. Et pour l'instant, nous en sommes sur quelque chose qui est incitatif. Bien évidemment, si tout cela ne devait pas marcher, d'autres mesures seraient sans doute à envisager.
Merci Joël Giraud d'être venu dans les studios de France Inter. La pause rurale, c'est donc demain, le jour du Conseil des ministres. 13h44.
France Inter, le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
À suivre dans 10 minutes le vif de l'histoire, on parle élection.
Oui, comment l'isoloir et l'urne sont arrivés jusqu'à nos campagnes.
À tout à l'heure, le feuilleton, que reste-t-il des heures glorieuses de la gauche? Tiens, on parlait de la Nièvre, nous irons dans la Nièvre avec Antoine Gignot. Épisode du jour avant un 13-14 en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des régionales. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le chanteur Ben L'Oncle Sol fête demain ses 10 ans de carrière à l'Olympia. Et il est à votre micro, le temps d'une chanson.
Et il s'en est passé des choses pour lui. En 10 ans, 4 albums, plusieurs tubes, des festivals, des récompenses. Joli parcours pour un chanteur qui s'imaginait au départ devenir professeur d'art plastique.
J'ai commencé plutôt jeune finalement. Je sortais des Beaux-Arts. J'ai eu la chance de quasiment tout de suite trouver une maison de disques qui voulait m'accompagner. Motown de France à l'époque. Et puis on a fait énormément de concerts sur le premier album. 13 pays différents, 350 dates de concerts. Et puis en fait, du coup... Les 10 ans sont passés à une vitesse assez folle, je me suis pas trop rendu compte, et du coup c'est un anniversaire qui mérite quand même d'être fêté, je trouve ça cool.
Et à l'Olympia.
En plus à l'Olympia, c'est chic, et puis ça montre que les petites pierres qu'on avait posées il y a 10 ans sont bel et bien ancrées, et qu'on a construit une jolie petite maison qui fait de la musique.
C'est une chanson de 67 que Ben L'Oncle Sol a choisi de nous faire écouter, Am I a Good Man, par Them Two.
Un duo formé par Larry Green et Lawrence Mobley, qu'il a découvert grâce aux Américains du groupe Monophonix, avec qui il a enregistré son deuxième album. C'était à San Francisco en 2013. Et en entendant cette musique, Ben L'Oncle Sol a été profondément touché, bouleversé, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Et il s'est empressé d'aller acheter ce disque une fois rentré chez lui.
Je vivais à Los Angeles à cette époque-là, je mets 2-3 disquaires à le trouver, parce que c'est pas vraiment un morceau ni un groupe super connu, quoi. Et je le trouve. Et donc là, je rentre chez moi avec ma petite platine vinyle, je le pose, je cherche ce morceau d'abord, parce que je me rappelais plus comment il s'appelait, et quand je le trouve, mais il m'a refrappé en plein cœur, et là j'ai compris pourquoi.
À cause des paroles ?
C'est ça. C'est un homme qui se pose la question, est-ce que je suis vraiment un mec bien, en fait? Et je sais pas, c'est arrivé un peu à un moment où j'avais tourné le dos à plein de monde. J'étais parti vivre mon aventure avec les Américains. J'avais laissé des potes, musiciens derrière moi, sentimentalement parlant aussi. J'étais dans une période où j'avais traversé plein de trucs. Et donc, du coup, je me suis posé la même question, quoi. Et j'ai adoré ce titre. Je le trouve assez fondateur, comme une espèce de forme de renaissance, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau musical, parce que la musique, vraiment, j'adore, quoi.
Cette chanson, du coup, elle vous a aidé
à prendre conscience de certaines choses, à faire le point.
Là, cette chanson, elle a mis des mots sur une sensation qui était dans l'air à ce moment-là, des pensées un peu qui gravitaient autour de ma tête, comme un espèce de nuage gris avec un peu de pluie dedans, sans doute. Et bah, ça m'a permis aussi de me lâcher, quoi. Bah, voilà, de pleurer, de tout d'un coup prendre conscience qu'en fait, c'est la question que je me posais, quoi. C'était ça peut-être aussi le mal qui me hantait à ce moment-là, c'était d'arriver à me poser cette question, quoi. Mais je suis vraiment un mec cool ou pas?
Et est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question?
En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste que il faut à un moment donné changer de basket et se remettre bien dans l'axe, quoi. Mais moi, la musique m'a toujours aidé, là c'est quasiment sauvé à ce moment-là, mais en général c'est toujours aidé, guidé, quoi.
I a good man, them too. C'était donc le choix de Ben L'Oncle Soul en concert demain soir, Frédéric.
À l'Olympia pour fêter ses 10 années de carrière. Il sera par ailleurs en tournée cet automne dans toute la France.
C'est bien noté, à demain.
À demain.
Et après-demain, jeudi, le 13-14 sera en Bourgogne-Franche-Comté, au Creusot précisément, pour parler politique à 3 jours des régionales et parler du désintérêt de plus en plus grand pour cette matière. Question en particulier posée à la gauche, dont une partie des électeurs dans ces terres agricoles et ouvrières a déserté. Des terres marquées par de grandes figures de la gauche, pourtant dans la Nièvre en particulier. C'est le deuxième épisode du feuilleton signé Antoine Gignot. Nous sommes à Monsauche-les-Sétons, le canton de François Mitterrand pendant plus de 30 ans. Qu'en reste-t-il ? En quoi la politique a-t-elle changé depuis ? L'épisode commence à la mairie. On feuillette un album photo avec la maire Marie Leclerc et la conseillère municipale Marie-Claudine Boucher-Pilon.
Par exemple, ça c'est notre mairie à Monsauche.
Avec François Mitterrand, jeune.
Oui, c'est, avant d'être élu maire de Château-Chinon, parce qu'on en parle toujours et c'est très bien, il a été élu conseiller général du canton de Monsauche-les-Sétons. C'est son premier ancrage d'élection en 49. Il avait de nombreux amis sur le secteur, bien sûr. De toute façon, il avait quand même une aura. Il n'a pas toujours été parfait, hein. Mais il avait un grand sens de l'humain, je pense. Pour la politique, mais c'était une locomotive qui n'a pas vraiment été remplacé depuis.
Oui, on parle beaucoup de François Mitterrand, mais c'est aussi l'ancrage de Pierre Bérégovoy.
À Nièvre, oui. Oui. C'était quelqu'un de cœur. Hein. Oui. Et quelqu'un qui était arrivé ministre avec un CAP, quoi. Comme quoi, ça rendait l'espoir. Tout était possible dans la vie. Et on travaille, on s'investit, et il y a les justes retours. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux connaître les bonnes gens. Enfin bon.
C'est un peu terrible quand même de vous entendre dire ça, non ?
Ouais, c'est clair, j'en ai même les larmes aux yeux, mais bon. Voilà.
À quelques kilomètres, à la saboterie Marchand, François Mitterrand était plus qu'une personnalité, un ami de la famille qui s'invitait à dîner régulièrement. À l'époque, Camille Marchand, le grand-père, faisait tourner seul l'entreprise. Son fils et son petit-fils ont pris la relève et produisent des pieds de sapin de Noël. Au plus fort de la saison, ils emploient près de 60 personnes.
Je m'appelle Alain Marchand et je suis gérant donc de l'entreprise de la saboterie donc que je tiens de mon père Camille Marchand, ami de François Mitterrand, et donc une entreprise que j'ai repris en 1980. Ils se sont connus pendant la dernière guerre, pendant le maquis, quoi. Et donc, ils étaient restés vraiment, vraiment amis. On doit avoir peut-être 350-400 cartes postales de Mitterrand, même s'il était de Germain, qu'il a commencé, sa stratégie politique a commencé dans la Nièvre, quoi. Quand il me voyait, il me disait qu'il était fier de moi, que j'allais reprendre l'entreprise de mon père, etc. Et alors, je pense qu'il devait revoir ses tablettes, parce que quand il venait, il savait précisément la date de naissance de tout le monde, etc. Il venait manger avec mes parents à Neuf à la Coque, etc. Vous voyez, c'était rigolo, quoi.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, pour vous, dans le territoire ?
Alors, moi, je fais partie des gens qui ont perdu un petit peu le sens de la droite et de la gauche. Je ne saurais pas vous dire que reste-t-il des années Mitterrand ? Certes, ses convictions, certes, ses façons de voir, mais tout a changé, quoi. c'est de plus en plus compliqué. Moi, je vous parle en tant que chef d'entreprise. Et est-ce que c'est la collectivité qui doit assurer tout le monde? Ça, moi, je suis un peu perplexe, quoi, si vous voulez. L'être humain, je veux dire, quand vous l'aidez un peu trop, ben, il n'a pas trop envie de se lever le matin. Et c'est normal, c'est logique. Hein. C'est un constat. On voit ce qu'a fait la droite, on voit ce qu'a fait la gauche. Certainement pas assez de rigueur, pas assez de fermeté. C'est certainement pas facile. On peut le concevoir, parce que bah, tout le monde est dans la rue. Hein. Maintenant, il va y avoir une percée des extrêmes, c'est obligatoire, parce que les gens sont quand même un petit peu chahutés, quoi. Ils savent plus, quoi, au bout d'un moment. Et il y a des gens qui, eux, tous les matins, vont se lever pour un SMIC, et c'est ceux-là dont je parle. C'est tous les gens qui vont, eux, aller devoir se lever à 6h du matin, et ça, c'est vraiment ceux-là qu'il faut encourager, quoi. J'espère qu'on va trouver un dirigeant qui va serrer un peu les boulons, quoi, qui va essayer de remettre un peu les gens le facteur sur le vélo.
Et le feuilleton avant le 13-14 en Bourgogne-Franche-Comté jeudi, ce feuilleton continue demain.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun dans le vif de l'histoire. Aujourd'hui, à 5 jours du premier tour des régionales et des départementales, petite histoire de l'Urne, de l'isoloir et du bulletin de vote. Depuis quand s'en sert-on ?
Eh bien, la Deuxième République, vous le savez, en 48, instaure vraiment le suffrage universel, enfin masculin. Hein. Alors, comment organiser dans l'urgence un scrutin pour près de 9 millions d'électeurs ? Il aura lieu le jour de Pâques, 1848, dans les seuls chefs-lieux de canton, où on se rendra depuis son domicile, souvent dans des manières de procession conduites par les notables qui apprivoisent ainsi le corps électoral, ce nouveau maître. Le ministère de l'Intérieur s'est proposé de fournir des urnes gratuites. Mais certains chefs-lieux de canton renâclent à payer les frais de port. Alors ils se contenteront de n'importe quelle boîte. On soutiendra que furent utilisés des soupières et des chapeaux. Toujours des chapeaux dans l'histoire de la République. Oui. Le chapeau, pourtant, ne convient vraiment pas, parce que le vote est censé demeurer secret, bien que se déroulant en public. Pour les élections suivantes, en 1849, il est indiqué que c'est au président du bureau de prendre des mains de l'électeur son bulletin et de le glisser dans l'urne. Le bulletin n'est donc pas protégé par une enveloppe. Il n'est pas non plus nécessairement imprimé. Les élections s'étant établies le dimanche, c'est jour à boire. Alors des rabatteurs et autres cabaleurs peuvent vous offrir des rafraîchissements en même temps qu'ils distribuent des bulletins.
Et quand l'idée de l'enveloppe apparaît-elle ?
Alors dans les années 1860, oui. L'idée de l'enveloppe. Parce que curieusement, il a fallu 2 générations pour que l'enveloppe et son corollaire, l'isoloir, s'imposent dans la réalité. Le Parlement définira d'abord en 1881 la durée des campagnes, 20 jours. Il instaurera la carte d'électeur, 1884. Dès 1882, une commission recommandera l'enveloppe. Mais en 1889, en 1898, en 1901, elle sera rejetée par les 2 assemblées, alors que le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne l'avaient adoptée. En France, ça passe pas jusqu'à une loi de 1913 qui l'instaure avec l'isoloir d'un même mouvement.
Et pourquoi ne voulait-on pas de l'enveloppe jusque-là ?
Eh ben, en 1889, Jolibois, un député de Vendée, invente une raison qui mérite d'être citée. Figurez-vous que dans votre département, Bruno,
je l'attendais,
les campagnards n'auraient pas la même dextérité que les citadins pour ouvrir et fermer une enveloppe. Un certain Germain Perrier ajoute, lui, que les ouvriers, eux aussi, ont les mains calleuses. Le comte de Martin Pré se fait l'interprète des paralytiques et des infirmes. En réalité, la difficulté principale tient à l'isoloir, qui devient nécessaire dès lors qu'il faut glisser un bulletin dans l'enveloppe. On le présente comme un cabinet, une cellule, un cabanon. Mais ce qui gêne, à mon avis, c'est qu'il va devenir l'équivalent du confessionnal. Je m'explique avec un souvenir. Il m'est arrivé de tenir un bureau de vote. Et voilà que je lis sur une carte d'identité qu'une dame me tend, Pétrement Simone. La biographe de la grande philosophe Simone Veil. Agrégée de philo, elle aussi, surtout sa meilleure amie, sa confidente, comme son incarnation. Elle va vers l'isoloir, et tenez-vous bien, elle y passe au moins 3 ou 4 minutes. Alors on a prévu des rideaux courts pour que tout soit vérifiable. J'en atteste, c'est avec elle-même que Simone Pétrement délibère longuement. Membre d'un corps collectif, Simone Pétrement pose seule
l'acte le plus considérable de la vie politique, l'équivalent d'un sacrement et qui demande du temps, du sérieux et de la solennité. Et que fait l'électrice, avec un grand E, Simone Petroman ensuite, eh ben, elle va droit à l'urne et c'est elle-même qui glisse l'enveloppe dans l'urne sainte. Là aussi, c'est le texte de 1913 qui fait foi, instaurant l'enveloppe et l'isoloir. Il a aussi dépossédé le président du bureau du privilège d'introduire le bulletin dans l'urne. Et la première expérimentation de ce nouveau rituel a changé depuis, a eu lieu avec les législatives de 1914 qui ont précédé la guerre.
Une très belle histoire de l'urne, de l'isoloir et de l'enveloppe de vote. Merci Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La terre au carré, quel est le programme?
La terre dans la forêt. On va s'intéresser à l'état de santé des forêts françaises.
À tout de suite.